Mais avant de lire le texte du jour, je parle bien le texte du jour qui est prêché aujourd'hui dans toutes les églises protestantes du pays de Gex et aussi dans toutes les églises protestantes du monde. Alors, mais avant de lire ça, nous nous remettons à la prière. Prions. Seigneur, tu sais combien il est difficile pour l'homme de comprendre ta parole. C'est pour cela que nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint sur chacune et chacun pour que notre cœur soit rempli de ton souffle vivant, pour que ta parole nous interpelle, nous fortifie et nous envoie. Au nom de Jésus, amen. Alors le texte du jour, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 22, 1, 14. Alors je crois que c'est la tradition que l'Assemblée, un des membres, lire le texte. Voilà, je laisse ça à quelqu'un. Hein? Alors, allez-y.
Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. » Les bœufs et les bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »
Merci. Alors, dans un sens, cette parabole écrite par Matthieu est bien réjouissante, car nous sommes tous invités au festin, que nous soyons bons ou mauvais. Mais dans un autre sens, cette parabole est inquiétante, car Matthieu, par rapport à la même parabole transmise par Luc, il ajoute le rejet, la violence et la sanction terrible. Alors comment y lire, comment trouver donc la parole de Dieu qui nous transforme, qui fait vivre? La manière traditionnelle de lire ce passage est d'en faire une lecture allégorique. Cela veut dire le roi de la parabole représente Dieu, les premières invitées représentent le peuple juif, les serviteurs du roi sont les prophètes qui ne sont pas écoutés, et puis le Christ et les apôtres qui sont méprisés et même tués. L'armée du roi représente des Romains, l'empereur Titus qui détruit Jérusalem, le temple et finalement les Juifs. Une belle vengeance. Et la seconde vague d'invitation vers nouveau serait l'ouverture de la nouvelle alliance vers les païens, mais vers les païens convertis, sinon rejetés. Et nous sommes tous des païens convertis, invités au festin de noces, alors réjouissons-nous. C'est ce que l'Église, surtout avant la Réforme, c'est ce que l'Église catholique a prêché longtemps en stigmatisant le judaïsme de la mort de Jésus et surtout en oubliant le contexte de la communauté judéo-chrétienne à laquelle, pour laquelle Matthieu a écrit son livre. Alors remettons-nous d'abord dans le contexte historique avant de transposer ce récit antique à notre époque. Je vous ai dit que la même parabole se trouve dans Luc, Luc 14. La parabole de Matthieu se démarque pourtant de celle de Luc, Luc qui rêve de l'Église universelle en dépassant tous les signes identitaires, tandis que Matthieu se soucie énormément de la conversion de ses compatriotes juifs. Oui, les deux, ils avaient la vocation différente. Alors, afin de comprendre la parabole autrement racontée par Matthieu, il nous faut donc relever des différences, il y en a deux, et poser la question sur elles. Ainsi, on peut recevoir finalement la bonne nouvelle proclamée par Jésus à travers l'apôtre des Juifs. Vous avez entendu, Paul, il a été appelé l'apôtre des gentils, pour les païens. Et Matthieu, il représente, lui, l'apôtre des Juifs, pour les Juifs. Alors, la première variante qui donne le caractère d'une telle violence à cette parabole se trouve dans les deux versets 6-7, c'est-à-dire, je cite, ceux qui restèrent se saisirent des serviteurs, les injurièrent et les tuèrent. Le roi fut en colère, il envoya ses soldats et fit tuer ses meurtriers et incendia leur ville. Ces versets ne sont pas dans les versions de cette parabole selon Luc 14. Alors pourquoi Matthieu seul, il détaille ces deux versets violents? Pourquoi Matthieu? Parce que cette violence fait partie de la vie quotidienne de la communauté de Matthieu qui vivent probablement en Syrie dans les années 80-90 à cause de leur prise de position chrétienne. Alors Matthieu, il constate par la parabole, il voit chaque jour que sa communauté en Syrie, ses frères et sœurs en Christ, ils sont pourchassés, persécutés, tués par le judaïsme qui rejette Jésus Messie. Vous vous souvenez d'un certain Saul sur le chemin de Damas. Damas, la capitale de Syrie. Vous voyez la connexion? Oui, la violence exposée dans le récit semble normale aux chrétiens du 1er siècle qui rejettent violemment à leur tour le judaïsme. La guerre fratricide. Un juif saisit un juif maltraite un juif tue un autre juif. Cela, Matthieu, le disciple des Juifs, il le constate, il le reconnaît, mais ne l'accepte pas, surtout autour de sa communauté judéo-chrétienne naissante. Alors il voudrait dire, il voudrait crier par cette parabole, oui, la violence existe, Mais d'où vient-elle exactement? Oui, il est vrai que Matthieu exprime sans arrêt son animosité envers les Juifs, comme écrit dans le chapitre précédent, je cite, « Après avoir entendu les paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était Dieu que Jésus parlait, ils cherchaient à le faire arrêter. » Vous voyez que c'est surtout envers les représentants juifs, envers des gens du pouvoir, envers le judaïsme orthodoxe légaliste que Matthieu a exprimé son hostilité. Comme Saul qui a témoigné dans la première lettre aux Corinthiens, hein, « J'étais débordé de zèle envers pour la tradition de nos pères. » Mais en même temps, Matthieu, il ne s'arrête pas à affirmer tout au long de son livre la joie d'accueillir des petits, un enfant au milieu des disciples, mise en garde de la chute d'un seul de ses petits, la brebis égarée et le pardon démesuré jusqu'à 70 fois cette fois. Cela veut dire, il ne fait aucun doute à Matthieu que le Messie est venu. Le Messie, il est venu en la personne de Jésus de Nazareth, un juif, mais rejeté par le pouvoir religieux, meurtri par le pouvoir politique, mais vivant pour les petits, ressuscité pour les exclus. La bonne nouvelle, cachée derrière la violence apparente, n'est rien d'autre que l'appel à la rupture, non pas avec un peuple, ni avec une histoire, mais l'appel à la rupture avec le pouvoir de toutes sortes, symbolisé par le champ et la commerce, c'est-à-dire la rupture avec le pouvoir économique, symbolisé par les pharisiens et les grands prêtres, la rupture avec le pouvoir religieux. Comme il a montré tout à l'heure sur l'image, la religion, une institution du pouvoir. Désormais pour Matthieu, c'est Jésus serviteur qui convie au grand repas de noces tous les petits, soit juifs ou païens. Alors comme Jean-Baptiste a crié dans le désert, Matthieu crie par cette parabole à ses compatriotes à Damas, « Convertissez-vous !» La deuxième variante chez Matthieu est la présence de l'homme qui n'a pas revêtu un habit de noces. Convié gratuitement à la noce, comme tous les autres inconnus à la croisée d'un chemin, cet homme, il fait partie des invités surprises. Cet homme représente surtout aux yeux de Matthieu l'arrivée massive des païens à sa communauté chrétienne de Damas, des Samaritaines, des centurions romains, des esclaves noirs. Oui, les noces universelles sont prêtes. Le roi appelle, il appelle encore ses serviteurs en disant « Allez donc au carrefour et invitez aux noces tout ce que vous trouverez. » Alors les serviteurs rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, bon et mauvais, et la salle de noces est ouverte à toutes les nations. Oui, c'est ainsi qu'à la diaspora en Syrie, il n'y a donc plus de première ou de dernière place, Il n'y a plus de seigneurs et de vilains, de grands et de petits, de riches et de pauvres, seulement des invités embarqués de grâce dans l'aventure et revêtus de l'habit de noces, gratuitement offert à l'entrée par le maître de la maison à ses invités. Les invités, ils n'avaient même pas besoin de se préparer. Tous les invités reçoivent ainsi une nouvelle dignité, un enfant de Dieu en Christ, la seule identité authentique qui supprime la discrimination ethnique, socio-économique, même sexuelle. Pourtant, dans le Matthieu, un homme ne porte pas d'habit de noces. Qu'a fait cet homme ? A-t-il d'abord revêtu l'habit pour entrer, puis une fois à l'intérieur, s'est-il ravisé et l'a enlevé ? Le texte ne dit pas les motivations de l'homme. Il n'a pas d'avis, c'est tout. Et il est rejeté, expulsé. Alors Matthieu interroge par ce personnage sa communauté judéo-chrétienne de Damas, où entrent maintenant tous ceux bons et mauvais qui finissent par entendre l'appel du roi. Mais il interroge sa communauté judéo-chrétienne qui devient judéo-pagano-chrétienne. Est-ce suffisant de se dire chrétien pour être invité au festin des noces à Jérusalem? Est-ce suffisant de recevoir le baptême pour être bien présent au festin du royaume? Car, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un contexte de la persécution violente, se trouver aux noces n'est pas un passe-temps, mais un retournement, un renversement radical, comme Saul a vécu sur le chemin de Damas. Alors, comme Jean-Baptiste a crié dans le désert, Matthieu crie par cette parabole, « Convertissez-vous !» Alors que cette première lecture contextuelle nous permet déjà de mieux comprendre comment les chrétiens de la première siècle en Syrie éprouvaient la bonne nouvelle malgré le danger extérieur et intérieur. Mais nous ne sommes ni juifs orthodoxes ni païens de cette époque, n'est-ce pas? De plus, ce matin, en mémoire du 500e anniversaire de la Réforme, nous protestants du 21e siècle, il faut faire encore un pas plus pour trouver encore la bonne nouvelle sur notre foi. Alors revenons de nouveau sur les deux variantes. D'abord, ceux qui restaient. Là, dans la traduction, les autres. Mais dans la traduction correcte, c'est plutôt ceux qui restent. C'est-à-dire ceux qui maltraitent, ceux qui tuent les serviteurs du roi. En général, dans la Bible, le terme de rester, reste d'Israël, est très positif. Il exprime ceux qui tiennent bon, les purs, les incorruptibles. La foi pourrait être ainsi définie. Mais le risque est d'être attaché aux moyens et non au but. Le risque, c'est lié à la loi et non à la grâce, à son institution, au point de tuer la dynamique de l'Esprit de Dieu qui vient d'ailleurs. D'un coup, ces invités évoquent notre part d'intégrisme à nous, source d'injures et de mort. C'est pour cela que le roi invite alors tous ceux qui sont au carrefour des routes. Le seul critère est d'être sur la route, là où elle s'ouvre sur les grands espaces. Évidemment, mieux vaut être bon que méchant, bien sûr, mais là n'est pas un critère pour être sur la liste des invités. Le critère est d'être en recherche, quitte à abandonner ses convictions, quitte à abandonner son demeure confortable. Ceux-là sont disponibles à écouter, à répondre à l'appel nouveau de Dieu et effectivement à pouvoir goûter à ce tout est prêt que Dieu nous offre. La foi, elle est donc d'abord et avant tout une recherche ouverte et une disponibilité à l'appel de l'autre et des autres. Mais ce n'est pas tout, car il y a la deuxième variante, c'est-à-dire que l'un des participants à la noce va être disqualifié. Le roi constate qu'il n'a pas mis la vie de fête. Mais attention, ici, le manque d'avis de noce n'est qu'un signe pour le roi et cela ne suffit pas pour qu'il le jette dehors. Le texte nous dit bien que le roi, il constate, mais il ne le rejette pas, il ne l'expulse pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, cela conduit le roi à s'intéresser à lui et à lui dire « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noce ?» Pas un ton de reproche, mais un dialogue, comme il voulait à Adam, à Caïn, à tout homme. Le roi l'appelle même « Mon ami ». Mais cet homme eut la bouche fermée. Là est le problème. L'homme n'a rien à répondre. La foi n'est pas juste une obéissance. Elle est une réponse personnelle. Dieu nous voue libre et responsable. L'homme aurait pu dire que oui, cet homme, il aurait pu dire que « Oh, la couleur ne me plaît pas !» Oui, ou bien « Oh, l'intendant s'est trompé de taille, c'était trop petit, ou bien c'était trop grand hein. !» Oui, il a le droit de discuter avec Dieu, même il a le droit de contester, comme Jésus dans le jardin de Gethsémané. Mais si on ne sait même pas pourquoi on a fait ce qu'on a fait, penser ce qu'on a pensé. On est effectivement comme cet homme, pieds et poings liés dans les ténèbres. Ce n'est pas par la volonté de Dieu qu'il est ainsi en mauvaise posture, mais malgré tout ce que Dieu put faire. Alors la foi est donc, après une recherche ouverte, la foi est donc une réponse sincère, libre et responsable qui se nourrit de la grâce de Dieu. Alors je termine. On a fait un petit parcours, un petit voyage de oui, les premiers siècles pour les chrétiens en persécution, naissante, mélangée, et jusqu'à notre époque. Et puis pour moi, en fait, ce que Matthieu demande à sa communauté chrétienne naissante, composée de bons et mauvais, des juifs et des païens, rentre dans la définition de la foi qu'on a partagée. Tout à l'heure, oui, il nous supplie, il crie, convertissez-vous, ne restez pas dans votre compréhension, ne vous installez pas dans votre conviction qui juge, qui condamne, qui tue les autres. Ne restez pas dans un silence absent, mais venez au festin avec une ouverture et avec une parole vivante. L'Église n'est jamais définitivement réformée, mais toujours à réformer. Amen. Restons un peu dans un silence pour méditer ce qu'on vient de partager. Seigneur, à chaque époque, nous sommes tenter de prendre le pouvoir. Nous sommes tentés, oui, de s'installer définitivement et de monter le mur au lieu de construire le pont. Seigneur, permets-nous d'entendre ton appel. Va pour toi. Seigneur, permets-nous de rester toujours sur le chemin, d'aller rencontrer les autres pour participer au festin de noces ouvert à toutes les nations. Amen.
Daniel vient de parler dans sa prière de pas monter des murs, mais de construire des ponts. Moi, je souffre depuis très longtemps, aussi loin que je me rappelle, de nos dénominations. J'allais dire horreur, j'aime pas ça du tout. Et on a parlé tout à l'heure des EPUF, Église protestante unie de France. Et moi, ce matin, je ne sais pas, j'espère pas te choquer, Daniel, mais est-ce que j'aurai le droit de te prendre dans mes bras ? Merci, Daniel, merci beaucoup. Je dirais même, reviens quand tu veux. Merci pour ce que tu nous as apporté. Merci parce que ce matin, on a été simplement une Église unie. Et j'aimerais retenir ce mot et j'aimerais qu'on pense à ces paroles même de Daniel. Construisons des ponts et pas des murs. Merci. Merci aussi, chers amis musiciens, pour ce temps. Merci chacun pour ce service que vous nous avez apporté ce matin, pour ce temps dans les bras d'amour de notre Seigneur, ce temps à lui rendre ce qu'il nous donne et ce temps à l'écouter. Merci, merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes d'avoir ce jour à part et de pouvoir nous retrouver. Mais ne nous limitons pas à ce jour, continuons de nous retrouver et de penser les uns aux autres pendant tous les jours qui vont suivre jusqu'au prochain temps mis à part. On voudrait partager les annonces, nos activités.
Le Femme Club, exceptionnellement, c'est chez Lydia.
Alors, Femme Club chez Lydia, demain. Pensez toujours au conseil. Demain, nous nous retrouvons avec la commission culte et croissance spirituelle pour avancer sur la réflexion pastorale de notre recherche d'un pasteur. La réunion des jeunes adultes, mardi, on veut penser à eux aussi, la chorale. Dimanche prochain, baptême. C'est un culte de baptême. Yannick, Elodie, Josette. J'ai vu parler tout à l'heure avec Yannick et Elodie qui vivent ces jours trop courts. Ils sont trop longs. Ils voudraient qu'ils soient plus courts pour arriver à dimanche prochain. On se réjouit de ce temps de baptême. On se réjouit de ce temps de baptême dimanche prochain. Donc on veut aussi y penser. On veut penser non seulement maintenant, pour ce temps de préparation, pour ce temps à vivre ensemble, ce temps de joie, mais aussi pour la suite. Hein. Ne nous oublions pas les uns les autres après, parce que voilà, il y a des gens qui n'aiment pas les enfants de Dieu, et ces gens, ce n'est pas eux l'important, c'est celui qui est derrière et qui manipule tout ça, et nous aimerions nous porter toujours sur nos cœurs les uns les autres et ne pas oublier ces baptisés qui arrivent, mais ceux qui ont été baptisés il y a peu de temps ou il y a plus longtemps. Dimanche prochain, donc ce temps de baptême sera suivi par un apéritif dînatoire, ça veut dire qu'on reste là ensemble. On reste dans le partage, donc chacun amène ce qu'il peut amener, on le met en commun ici et on passera encore un temps après ensemble de communion et de partage de nourriture, mais de partage aussi de nos cœurs et de nos âmes. Donc surtout, pensez bien dimanche prochain à rester, aussi un petit peu amener quelque chose, c'est bien, mais surtout à rester et à partager ces temps, à les prolonger un petit peu et à rester ensemble. Voilà, vous avez toutes les informations devant les yeux. On veut. Est-ce que j'ai oublié une information ?
On remet en route un parcours baptême.
C'est vrai.
Voilà, donc avis à chacun, l'a entendu ce matin. Le problème, c'est de se renseigner, de venir discuter, de partager ça. Donc voilà, j'attends encore. On va l'annoncer le dimanche prochain, après on fixera un moment qui va pour les personnes. Pour l'instant, il y a une personne qui est intéressée, mais on fera le parcours baptême pour cette personne, mais c'est plus sympa à plusieurs.
D'accord. Merci Jean-Paul de nous le rappeler, c'est vrai. Donc le parcours baptême redémarre. Tous ceux qui se posent des questions, c'est entrée libre et sortie libre. Hein, donc vous pouvez venir juste pour partager approfondir cette question du baptême, et même à la limite si quelqu'un était déjà mais qu'il a envie de partager, il est invité, hein. Donc adressez-vous à Jean-Paul pour pouvoir fixer les temps et les heures pour ce parcours baptême. Merci. On veut continuer de penser les uns aux autres, tous ceux qui souffrent de maladies, de situations difficiles, de solitude. Je ne vais pas citer de nom, on connaît en principe. Si quelqu'un a quelque chose de particulier à partager, il est libre aussi de le dire ou de nous le rappeler. Mais vraiment, dans nos temps particuliers, mis à part devant notre Dieu, avec notre Dieu, c'est vrai, c'est quelque chose d'important et de constructeur, je dirais, pour nos âmes, de lui apporter nos frères et sœurs qui souffrent, de souffrir avec eux et d'être dans la joie aussi avec ceux qui sont dans la joie. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Ne passons pas notre temps comme cette petite image tout à l'heure à dire au Seigneur, oh tu m'écoutes, mais restons dans son écoute. Pas seulement, c'est important aussi de lui apporter nos souffrances ou nos questionnements, mais apportons-lui aussi, avec force, nos frères et sœurs. Portons-nous les uns les autres. Faire un petit partage sur la dernière étude biblique. Nous avons partagé un thème de ce livre qui s'appelle « Et pourtant Jésus l'a dit ». On a parlé du pardon la dernière fois, il y a une dizaine de thèmes dans ce livre. Et on a pensé avec les anciens qu'on allait poursuivre un petit peu cette réflexion. Ce sont des thèmes derrière lesquels il y a des textes bibliques. Alors bien sûr, on vient dans les textes bibliques et puis on décortique un petit peu ces thèmes qui sont tous des choses importantes. C'est l'enseignement direct de Jésus. Et notre prochaine étude, donc au début octobre, au début novembre, pardon, merci, au début novembre, le premier mardi de novembre, c'est Pierrick. On lui met un petit peu le... bouscule un petit peu, mais il le fait avec plaisir, qui nous partagera sa réflexion, et ensemble on partagera sur le thème de la colère, c'est ça, hein, Pierrick, qui est là-dedans. Hein. Et puis on enchaînera. Alors, je ne peux pas vous donner d'ordre, parce que je prendrai aussi de nouveau plus la suite derrière, mais on va prendre ces thèmes un peu comme le Seigneur nous les met sur le cœur, et on les partagera, on vous le dira quand on y pense. Donc je vous parle de ça parce que on s'est donc procuré, nous les quatre anciens, ce livre. On en a commandé deux de plus qui sont dès maintenant disponibles à la librairie pour une somme de 13,50 €. Mais pour ceux qui seraient intéressés, c'est pas du tout difficile à lire. C'est chaque fois un petit chapitre de quelques pages. C'est beaucoup ancré dans le texte, et donc pour ceux qui seraient intéressés, allez vers Pascal à la librairie et on en commande. Ça arrive en 2-3 jours, donc il n'y a aucun souci, ça sera là rapidement. Voilà, ça vous partage un petit peu ce qu'on verra ensemble dans nos études bibliques prochainement, et puis c'est de toute façon, même si vous ne pouvez pas être là, très intéressant à lire. Merci. Si j'ai rien oublié, je vous invite à vous lever. Je voudrais lire un passage pour que nous puissions partir avec dans nos cœurs. Dans Éphésiens 1, au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Amen. Allez en paix.